Vous écoutez On lit pour vous.
Participation des Premières Nations à la Première Guerre mondiale, un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale. Au Canada, la Journée des vétérans autochtones est célébrée chaque année le 8 novembre. C'est l'occasion de rappeler leur contribution à l'effort de guerre. Plusieurs personnes des Premières Nations du Yukon ont également participé. Plus de 4000 soldats des Premières Nations ont combattu pour le Canada pendant la guerre, selon les registres officiels du ministère des Affaires indiennes. Nombre d'entre eux sont restés anonymes, en plus de subir certaines discriminations. Leur nombre pourrait s'avérer d'ailleurs plus élevé, voire doublé, car seules les personnes inscrites en vertu de la loi sur les Indiens, était officiellement reconnue par le corps expéditionnaire canadien. Ainsi, ni les personnes des Premières Nations non inscrites, ni les Métis n'ont été comptabilisées. Au début de la Première Guerre mondiale, le Canada n'a pas de politique claire pour recruter les personnes des Premières Nations. Initialement, leur enrôlement n'était pas encouragé et certains candidats ont été refusés. Au Yukon, plusieurs volontaires des Premières Nations n'ont pas été autorisés à partir avec leur premier contingent en raison des préjugés raciaux des autres hommes enrôlés. Cependant, face aux lourdes pertes et à la nécessité d'augmenter les effectifs, les politiques s'assouplissent. Par exemple, en 1915, des directives officielles ont été établies pour permettre le recrutement des personnes autochtones. En 1917, le gouvernement s'implique davantage en organisant des activités de recrutement dans les réserves. Certaines compétences des communautés autochtones étaient alors précieuses pour les forces armées, notamment la patience, la ruse et l'adresse au tir, acquises grâce à la chasse. Ces qualités ont permis à plusieurs d'entre eux de devenir d'excellents tireurs d'élite et éclaireurs. Au moins 50 médailles pour actes de bravoure ont été décernées à des soldats autochtones durant la guerre. Qui était-il? Michael Gates est l'auteur de plusieurs ouvrages historiques. Il a publié le livre « From the Klondike to Berlin » en 2017. Dans ce livre, l'historien rappelle que près d'un millier de Yukonais et Yukonaises, soit un quart de la population de l'époque, se sont enrôlés avant la fin de la Grande Guerre. Avocats, banquiers, accordeurs de piano, dockers et mineurs sont devenus soldats, infirmiers et tireurs d'élite, rappelle-t-il. Il retrace également la contribution des Premières Nations du Yukon. Parmi eux, l'historien cite Elliot et Alfred Totty, ainsi que Kenneth et Hugh MacDonald, tous fils de missionnaires anglicans et de mères autochtones qui se sont enrôlés et ont servi avec distinction. Hugh MacDonald était marié et étudiait le droit à Winnipeg lorsqu'il s'est enrôlé le 4 janvier 1915. Kenneth MacDonald s'est joint à la Marine royale. Selon l'historien militaire Timothy Wingard, John Campbell, un Inuit vivant au territoire du Yukon, a fait un voyage de 3000 milles par la piste en canoë et en bateau à vapeur pour s'enrôler à Vancouver. Il avait déjà essayé de s'enrôler au Yukon avec trois hommes des Premières Nations. Ils ont tous été acceptés par le dépôt de recrutement et ont passé l'examen médical. Cependant, à la suite de plaintes des hommes du contingent du Yukon, ils ont tous été sommairement renvoyés de l'unité. Aucun autochtone ou Inuit n'a été accepté pour servir au Yukon avant la conscription. L'historien fait également mention d'Alfred Clinton Totty, fils d'un missionnaire anglican et d'une mère autochtone de la colonie de Moose Hide, près de Dawson. Il est l'une des rares recrues du Yukon à être d'origine autochtone. Il faisait partie du 78e bataillon de l'infanterie canadienne lors de l'attaque de la ligne Drocourt-Kéan, lorsqu'il fut tué d'une balle de mitrailleuse dans la gorge le 2 septembre. Walter Harper, fils d'Arthur Harper, pionnier de la première heure, et d'une femme autochtone, est mort lors du naufrage du Princess Sophia. La femme de Harper l'accompagne. Elle allait étudier les soins infirmiers, lui, la médecine. Ils ont tous deux péri à la toute fin de la guerre, rapporte l'historien. Les oubliés. Fred Gaffin, historien militaire, publie en 1985 « Forgotten Soldiers, les soldats oubliés ». Ce livre aborde de nombreux thèmes majeurs liés à la participation des Premières Nations à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Il démontre que les contributions des membres des Premières Nations aux guerres ont souvent été oubliées par le public canadien. On y apprend également que la transition n'a pas été facile pour tous les volontaires. Avant l'arrivée de l'homme blanc, les Autochtones, surtout ceux de l'Est du Canada, considéraient la mort d'un individu comme une perte vitale pour le groupe social. Il fallait donc éviter les pertes importantes, peut-on lire. Et plus loin, pour les personnes des Premières Nations qui avaient été élevées de manière traditionnelle, l'adaptation à la vie militaire posait des problèmes particuliers, notamment en ce qui concerne les relations entre les officiers et les hommes. Traditionnellement, chez les Premières Nations, la distinction entre le chef de guerre et les guerriers n'était pas aussi nette qu'entre les officiers et les autres grades. Les guerriers considéraient le chef de guerre comme un égal. Il rapporte également que, bien plus que dans la communauté blanche, le guerrier jouissait d'un prestige et d'un statut dans la société autochtone traditionnelle. Pour certaines Premières Nations, l'enrôlement était motivé par la possibilité d'affirmer leur virilité. Et après? Après la Première Guerre mondiale, les contributions des peuples autochtones au conflit sont largement ignorées. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le pays a commencé à reconnaître leurs contributions. Le retour vers la vie civile a été difficile pour nombre d'entre eux, comme les autres soldats non autochtones. De plus, de nombreux vétérans de guerre autochtones n'ont pas reçu le même traitement que les autres vétérans canadiens. Par exemple, on peut lire sur le site fédéral des vétérans que le Canada a exproprié des centaines de milliers d'acres de terres de réserve à cette époque. Certaines de leurs terres ont également été prises et données à des non-autochtones dans le cadre d'un programme qui accordait des terres agricoles aux vétérans qui revenaient de la guerre. Le gouvernement a généralement exclu les vétérans autochtones de ce programme de réinsertion et les a également traités injustement d'autres manières. Souvent, ils se sont vus refuser l'accès aux avantages complets offerts aux vétérans et aux programmes de soutien. C'était « Participation des Premières Nations à la Première Guerre mondiale », un texte de Gwendoline Le Beaumain, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale.
Haïti Transition. Maître Samuel Madistin et Jacques Ted Saint-Dic président d'une catastrophe et proposent d'autres pistes de solutions. Un texte de Charlien Jeanville, paru le 13 novembre 2024 dans Alter Press. Le changement récent opéré au niveau de l'exécutif n'augure rien de bon pour Haïti. Il aggravera la crise, ont déclaré Maître Samuel Madistin de la Fondation Jeclaire et Jacques Ted Saint-Dic du Bureau de suivi de l'accord de Montana. Pour Samuel Madistin et Jacques Ted Syndic, le remplacement de Gary Colline par l'homme d'affaires Alix Didier, fils aimé à la primature, plongera le pays davantage dans l'abîme. C'est alarmant que le secteur privé du pays s'accapare du pouvoir, ont analysé le juriste et l'économiste lors de leur participation respective le 11 novembre dernier à l'émission « Fouette-Lide » diffusée sur Alter Radio 106,1 FM et en ligne. Maître Madistin se veut clair. Les contrebandiers reprennent le pouvoir. Pour Ted Syndic, c'est dangereux de confier l'hégémonie du pouvoir politique au secteur privé. Ils ont rappelé un supposé scandale de pot de vin entourant Alix Didier, fils aimé, lors de sa candidature au poste de premier ministre au mois d'avril 2024. Il ne fait aucun doute pour eux, cette nouvelle équipe ne peut organiser des élections. Madistin et Syndic ont exigé de stopper cette perte de temps constante qui ne fait qu'empirer la situation de la population, en proie à un déferlement de violence de gangs armés. Ils ont dénoncé l'avidité et l'attitude des autorités en place qui ne se sont pas élevées à la hauteur et à la dimension d'hommes et de femmes d'État dans une période de crise aiguë qui impose la solidarité et la moralité. Ils regrettent également que les membres du Conseil présidentiel de transition dédaignent les préoccupations du peuple haïtien sans prendre conscience de la gravité de la crise. Ils ont tous deux prôné un changement de cap. Une montée de violence des gangs est observée à la capitale depuis la veille de l'installation du nouveau premier ministre, le 11 novembre 2024. Des détonations d'armes à feu sont entendues et des déploiements de bandits sont constatés dans plusieurs quartiers où des personnes ont été tuées et des maisons pillées et incendiées. Il en résulte une situation d'incertitude et d'inquiétude sur Haïti, aujourd'hui isolée au niveau international après la décision des lignes aériennes de ne pas voyager en Haïti suite à des tirs ayant touché des avions en vol. La plupart des écoles et entreprises commerciales ont gardé leurs portes fermées. Les rues sont presque désertes dans plusieurs quartiers du centre-ville de Port-au-Prince. Maître Samuel Madistin a plaidé pour la formation d'un gouvernement dirigé par un juge de la Cour de cassation, sans premier ministre, arguant que l'histoire a prouvé que les acteurs de la Cour de cassation ont à plusieurs reprises aidé le pays à sortir de l'impasse. Jacques Ted Syndic a, lui, suggéré de reconstituer les secteurs signataires de l'accord du 3 avril et d'autres entités pour rediscuter de nouvelles directives à donner à la transition. Il a aussi recommandé d'écarter les trois membres du CPT inculpés dans un scandale de pot de vin et de procéder à un vetting de la gestion des autres membres du CPT. Alix Didier, fils aimé, a été installé lundi comme nouveau premier ministre haïtien, succédant à Gary Conil, qui a brillé par son absence lors de la cérémonie. Il a promis de se mettre rapidement au travail afin de rétablir la sécurité dans le pays. « Je prends l'engagement de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme au service de la cause nationale », a-t-il déclaré. L'ancien candidat malheureux au sénatorial de 2016 prend les commandes du gouvernement dans un contexte d'aggravation de la crise sécuritaire. C'était « Haïti Transition ». Maître Samuel Madistin et Jacques Ted Syndic président une catastrophe et propose d'autres pistes de solutions. Un texte de Charlien Janville, paru le 13 novembre 2024 dans Alter Presse.
Des scientifiques sonnent l'alarme. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 13 novembre 2024 dans La Presse. Plusieurs scientifiques de renom s'inquiètent de l'interruption possible d'un important courant marin d'ici la fin du siècle. L'arrêt de l'Amoc dans l'océan Atlantique constituerait un point de bascule aux conséquences dramatiques. L'Amoc, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme en anglais pour Atlantic Meridional Overturning Circulation ou Circulation méridienne de retournement de l'Atlantique en français. Plus concrètement, Il s'agit d'un système de courants océaniques dans l'océan Atlantique qui joue un rôle de régulateur du climat. La MOC assure la circulation des eaux chaudes et froides entre le nord et le sud. Pourquoi ce courant océanique est-il important? Si l'Europe est beaucoup plus clémente, surtout en hiver, c'est grâce à la MOC, explique Frédéric Fabry, professeur de sciences océaniques et atmosphériques à l'Université McGill. Citation: si on compare Vancouver avec Brest, ce n'est pas tout à fait le même climat, même si les deux villes sont à la même latitude. Le nord de l'Europe est beaucoup plus chaud et on sait que c'est en bonne partie grâce au courant de retournement atlantique. Le nord des îles Britanniques et la Scandinavie sont beaucoup plus chauds que le sud de l'Alaska grâce à ces courants-là. Fin de citation, souligne M. Fabry. Comment réchauffe-t-il le climat en Europe? Essentiellement, la MOC amène de l'eau plus chaude du sud dans l'Atlantique Nord, ce qui contribue à réchauffer le climat en Europe. Une fois au nord, l'eau refroidit. Plus l'eau salée est froide, plus elle est dense. Elle plonge alors vers les fonds marins et la MOC serpente dans l'Atlantique jusque dans le sud, où l'eau remonte à la surface en se réchauffant, précise Frédéric Fabry. Cette circulation de l'eau est essentielle pour maintenir un certain équilibre climatique dans l'hémisphère nord. Que se passe-t-il présentement avec ce courant? Citation: on voit que le nord de l'Atlantique est l'un des rares endroits qui ne se réchauffe pas sur la planète. Il ne se réchauffe pas, justement parce que cette circulation ralentit. Fin de citation, explique Frédéric Fabry. C'est un phénomène qui est connu et qui se vérifie avec les résultats de plusieurs mesures et modèles climatiques, précise-t-il. Comment un courant peut-il simplement s'arrêter? Citation: la clé, ce qui fait que ce courant fonctionne, c'est que l'eau salée et froide arrive à plonger, mentionne Frédéric Fabry. Avec les changements climatiques, l'eau se réchauffe. Les vents qui poussent ce courant ont tendance à diminuer, ce qui fait qu'il y a plus de pluie à nos latitudes et l'eau de mer devient moins salée. Elle devient de moins en moins dense et la circulation de la MOC ralentit. Ce qui fait peur aux scientifiques, c'est que l'eau devienne suffisamment peu dense et qu'elle reste en surface et c'est là que tout s'arrête. Fin de citation. Est-ce que c'est déjà arrivé? Citation: ce courant s'est déjà arrêté à la fin de la dernière ère glaciaire pendant une période d'à peu près 1000 ans, indique le professeur Fabry. Au Groenland, on a encore de la glace qui date de cette époque pour pouvoir obtenir de l'information sur le climat. La température moyenne est descendue de 5 à 10 degrés Celsius. On parle de changements énormes. Fin de citation. Qu'est-ce qui se passerait si la MOC s'interrompait? Citation: si ça arrive, le climat comme celui qu'on a en Europe va changer dramatiquement. Le nord de l'Europe va devenir beaucoup plus froid. Fin de citation, affirme Frédéric Fabry. En Amérique du Nord, la principale conséquence serait un rehaussement supplémentaire du niveau de la mer qui augmente déjà. Et qui sont ces scientifiques qui sont préoccupés par la MOC? À la mi-octobre 2024, une quarantaine de scientifiques ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils affirmaient que les risques d'une interruption de la MOC sont grandement sous-estimés. Citation: une telle modification de la circulation océanique aurait des effets dévastateurs et irréversibles, en particulier pour les pays nordiques, mais aussi pour d'autres parties du monde. Fin de citation, ont écrit les signataires, parmi lesquels on trouve le climatologue américain Michael Mann et Stefan Rahmstorf, climatologue au Potsdam Institute for Climate Impact Research en Allemagne. Ont-ils raison d'être inquiets? Pendant longtemps, on a cru que le risque que la MOC s'interrompe d'ici la fin du siècle était de moins de 10 %. Des études plus récentes affirment qu'il serait plus élevé. Citation: je crains à présent que nous fassions franchir à la MOC ce point de bascule au cours des prochaines décennies. Si vous me demandez mon avis, je dirais que le risque que nous franchissions le point de bascule durant ce siècle est d'environ 50-50. Fin de citation, a déclaré Stefan Rahmstorf au quotidien The Guardian le 23 octobre 2024. citation, une fois que ce courant s'arrête, on ne peut pas le redémarrer facilement. C'est pour ça qu'on parle de point de bascule. On parle d'un phénomène qui s'étalerait sur des milliers d'années. On ne sait pas quand ça va se produire, mais on sait que quand ça va arriver, c'est pour de bon. C'est pour ça que les gens sont nerveux. Fin de citation, soutient Frédéric Fabry. C'était « Des scientifiques sonnent l'alarme », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 13 novembre 2024 dans La Presse.
Pierroud, c'est une machine. Un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 8 novembre 2024 dans La Presse. Pierroud fait partie des voix les plus marquantes de l'histoire du sport au Québec. C'est maintenant au tour du temple de la renommée du hockey de le reconnaître. Après René Lecavalier, Richard Garneau et Gilles Tremblay, Oud deviendra le quatrième francophone à recevoir le prix Foster Hewitt, remis annuellement à un membre de l'industrie de la radio ou de la télévision qui a légué une contribution extraordinaire à sa profession et au hockey. La presse s'est entretenue avec les analystes qui l'ont côtoyé. Chaque soir de match au Centre Bell, Pierroud observe le même rituel. Michel Lacroix, annonceur maison, et lui s'attablent ensemble et défilent les noms des joueurs attendus sur la patinoire. La tradition perdure depuis au moins un quart de siècle, selon Lacroix. Depuis des lunes, estime Benoît Brunet. Quand tu vois ça, tu veux être à la hauteur à côté de lui. Lacroix est une de ses ressources. Le collègue Zdeněk Matějovský, Québécois d'adoption, en est une autre, surtout pour les Tchèques et les Slovaques. On ne peut pas toujours parler directement aux joueurs, donc Pierre va consulter Zdeněk pour avoir la bonne prononciation, ajoute Marc Denis. Et moi, j'essaie de me coller le plus possible sur lui. De Thomas Plekanec à Jiří Sekák, en passant par Michael Nylander, Pierroud s'est toujours fait un devoir de prononcer le plus fidèlement possible les noms des joueurs européens. Ces prononciations sont d'abord des clins d'œil entre amateurs de hockey avant de passer dans l'usage. Mais pour les analystes qui ont côtoyé Oud, ce n'est qu'un exemple de plus de son professionnalisme. Pierre Bouchard, analyste avec Oud à compter de 1993, se souvient. Quand il y avait des noms compliqués, il me les découpait syllabe par syllabe pour m'aider. Si j'avais de la misère à lire le nom sur le programme, je lui disais « Je vais te le laisser, ce joueur-là », mais des fois, il faisait exprès pour essayer de me le faire dire en onde. La préparation. Benoît Brunet a analysé les matchs du Canadien aux côtés de Pierroud de 2008 à 2011. À l'époque, rappelle-t-il, RDS détenait à la fois les droits locaux du Canadien et les droits nationaux de la LNH. Le duo se claquait donc les 82 matchs de la saison, de même que les séries. L'année de Halak, 2010, on avait fait les trois rondes du Canadien en plus de la finale à Chicago et à Philadelphie. Je passais plus de temps avec Pierre et les Techs qu'avec ma femme, se souvient Brunet. Là où Oud excellait le plus, sa façon de se préparer. Je faisais tout à la main, mais Pierre travaillait avec des collants. Chaque trio, chaque joueur avait ses collants. Ses notes étaient prêtes. C'est aussi ce qui a frappé Marc Denis. Il a un fichier pour chaque équipe. C'est fascinant de le voir aller, témoigne l'ancien gardien. Quand on reçoit le calendrier hors concours, il se prépare pour les 80 joueurs invités au camp des Devils des Flyers. Quand le Canadien a joué contre Alexei Kolozov, il avait probablement une note sur lui du championnat du monde de 2021. Le tiers des notes que j'ai sur les joueurs ne va pas en onde. Pierre, c'est peut-être 10% qui n'y vont pas. Il n'y a pas un vol où il ne met pas à jour sa base de données. Les trucs du pro. Contrairement au défunt Yvon Pedneau, nos trois analystes sont d'anciens joueurs qui ont chacun appris les rouages de la télévision aux côtés de Pierre Houde. Moi, c'est mon dépit. Encore aujourd'hui, j'ai tendance à m'emporter, admet Denis. Avec un geste de la main, il va me ramener. Il a été accueillant, d'une aide incroyable, et m'a laissé prendre non pas toute la place, mais toute ma place. Il comprend que ce n'est pas le hockey de Pierre et Marc, mais le hockey de la Ligue nationale. Pierre Bouchard n'avait que de courtes expériences en ondes, notamment aux entractes et à la radio, avant de devenir analyste à RDS. Il a été bon pour moi. Il a donné une chance à quelqu'un qui n'avait pas l'expérience. De Houde, Bouchard a appris quand garder une seconde de silence. S'il arrivait quelque chose, au lieu d'essayer de faire du remplissage, il me montrait à ne pas parler, pour montrer la gravité du moment. Et il mettait de l'humour, il ouvrait la porte pour qu'on en mette un peu. La description d'un match de hockey, ce n'est pas l'Évangile selon saint Matthieu. Tu peux relaxer un peu. Aujourd'hui, 35 ans après son entrée en onde à RDS, Pierre Houde rejoint les plus grands de son métier. Il le fait, doit-on le rappeler, tout en poursuivant la description de la F1, de même que l'animation de l'antichambre à temps partiel. C'est pourquoi Brunet souligne sa longévité, son énergie. De faire ça à son âge, de voyager, d'être préparé, je lui lève mon chapeau. Ce n'est pas pour rien qu'il entre au temple. En plus, il a fait les Jeux olympiques cet été. C'est une machine. Je n'ai pas cette énergie-là, moi. Les intronisés au temple. Le lundi 11 novembre 2024, les joueurs Nathalie Darwitz, Pavel Datsyuk, Jérémy Renick, Shea Weber et Chrissy Wendell-Poole, de même que les bâtisseurs Colin Campbell et David Poile, sont admis au temple de la renommée du hockey. Pierre Houde a reçu le prix Foster et Witt, tandis que le journaliste Scott Burnside a reçu le prix Elmer Ferguson. C'était Pierre Houde, c'est une machine, un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 8 novembre 2024 dans La Presse.